Radio Foot International, Annie Gasnier.
Aujourd'hui, en battant l'équipe qui est championne du monde, le Sénégal est championne du monde.
Une journée importante et joyeuse pour Abdoulaye Wade et sa nation. C'était le 31 mai 2002, moment dont nous allons nous souvenir aujourd'hui. Bienvenue à tous. Bonjour, bonjour de Dakar, la capitale du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes installés sous un baobab, un de ces arbres si grands, si imposants, si fascinants par leur taille et la disproportion entre le tronc énorme et ses feuilles si petites. Les baobabs qui peuvent atteindre l'âge de 2000 ans, mais qui malheureusement disparaissent du paysage. Il ne reste que de rares exemplaires ici dans la capitale. Pourtant, c'est un arbre sacré, l'arbre à palabres. Mais c'est un sacrilège de l'abattre. En tout cas, notre studio est installé sous un baobab, celui de l'Institut français qui le préserve. Et nous profitons, eh bien, ici de nos invités. Vous allez l'entendre, des invités de marque, puisqu'ils sont tous auréolés des lauriers de 2002, l'année où le Sénégal a disputé sa première Coupe du Monde, l'année où l'équipe des Lions de la Teranga s'est hissée en quart de finale de la compétition la plus suivie du monde. Kalilou Fadiga, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Radio Foot International. Alassane Dour, bonjour.
Bonjour.
Habib Bey, bonjour.
Bonjour.
Et Abdoulaye Sarr, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez tous été des acteurs de l'épopée de 2002. Vous étiez joueur pour ce qui est de Habib, Kalilou et Alassane. Et puis, Abdoulaye Sarr, vous étiez à la baguette. Vous étiez entraîneur adjoint. C'est ça. Et vous en donnez du fil à retordre?
Ah oui.
Oui, voilà. Beaucoup.
Mais toujours avec plaisir.
Toujours avec plaisir.
Ouais, ouais,
on va entendre vos souvenirs ici. Yoro Mangara aussi, notre confrère, nous rejoindra d'ici quelques instants. Nos invités de marque, donc, pour évoquer l'aventure de 2002, pour nous raconter aussi ce qu'ils en ont fait, si l'héritage peut encore fructifier et si c'est un poids pour les successeurs, les joueurs qui feront partie de la sélection qui s'apprête à partir en Russie. Radio Foot.
Radio Foot International à Dakar, à Dégasli.
Parti donc, c'est parti Radio Foot pour un voyage dans le temps où tout commence par un but historique, un but en Mondiaux Vision, signé Bouba Diop.
Diop, no mano a mano, já deixou le bump para trás, o ataque de Senegal é perigoso, o cruzamento, Batista, olha o gol!
It was Dove who put Elhan Chouf away, and they've got two striding up in the centre here. Bouba Diop is there! Oh, and Bouba Diop is there! And Senegal have scored the first goal!
Steve Bouba, chance to Senegal! Uri Kaj de Gru! Oh, top! Kimata! Senegal sensei!
C'est la passe manquée de Vieira. Et c'est Elhan Chouf qui est lancé. Cette fois-ci, il n'est pas hors jeu. Va-t-il récupérer le ballon? Il le récupère. Attention à l'ouverture de l'autre côté, ça vite! Oh, là, le premier but! Le premier but du mondial! C'est Pape Bouba Diop qui marque à la 30e minute de jeu. Pape Bouba Diop qui marque à la 30e minute de jeu.
On voulait ça depuis longtemps, mais Dieu nous a.
La quart de finale, deuxième finale.
Je crois que cette équipe-là peut aller très loin. Oui. Moi, personnellement, j'y croyais. Ouais.
Maintenant, l'objectif, c'est
la finale.
Carrément.
La finale. Parce que je pense que nous avons les meilleurs joueurs du mondial. Donc, je ne vois pas pourquoi pas on irait en finale. La finale, carrément.
Merci. Alors, vous êtes venu travailler avec le maillot des Lions.
Oui. Je suis un fervent supporter.
Au prochain tour, c'est soit l'Angleterre, soit l'Argentine, soit la Suède.
On n'a peur de personne. On a battu la France, on peut battre l'Angleterre, on peut battre l'Argentine.
Oui, nous sommes le Sénégal qui gagne, le Sénégal qui va vers l'avant. Mais nous sommes aussi de tout cœur avec la France qui perd.
Olivier Roger, c'est vous qui étiez dans les rues de Dakar en 2002 pendant cette épopée des Lions de la Teranga. C'était une aventure incroyable, j'imagine.
C'était une aventure absolument incroyable, effectivement. Et surtout, c'était une ferveur populaire complètement incroyable. Je me souviens qu'après le match remporté contre la France, 1-0 par le Sénégal, on voyait dans les rues de Dakar ou sur la corniche des jeunes à mobylette avec un coq à la main. Ils tenaient un coq et ils l'étranglaient et ils rigolaient en voyant les toubabs, c'est-à-dire les Français en disant on vous a eu. Pour eux, c'était totalement inespéré, c'était magique. Et les Sénégalais, beaucoup étaient partagés parce que ils étaient très fiers d'avoir battu la grande équipe de France qui était championne du monde en titre. Et ils étaient en même temps un peu déçus parce que ils aiment bien cette équipe de France, ils aiment bien les Français, ils aiment bien la France. Donc les sentiments étaient partagés entre un tout petit peu de tristesse, on va dire, et beaucoup de fierté d'avoir gagné ce premier match de leur première Coupe du Monde, fierté d'avoir battu la grande équipe de France. Donc en fait, il y avait une ambiance absolument euphorique, et cette euphorie a continué de jour en jour jusqu'à ce fameux quart de finale.
Fameux quart de finale où le Sénégal va être éliminé, mais ensuite, il y a le retour des joueurs et on croirait qu'ils reviennent avec la Coupe du Monde finalement.
Une marée humaine pour les accueillir de l'aéroport jusqu'en centre-ville, c'était un cortège absolument délirant. Les Sénégalais étaient effectivement euphorique. Je me souviens que pendant les matchs de la Coupe du Monde, déjà, la ville s'arrêtait de vivre. Et puis, quand il s'agissait des matchs sénégalais, et notamment des victoires sénégalaises, c'était des soirées et des après-midi, puisqu'il y avait un décalage horaire important, et des soirées aussi de fêtes dans les rues de Dakar, dans les quartiers périphériques. Les gens s'amusaient. La vie s'arrêtait pendant les matchs, et elle reprenait de façon beaucoup plus festive après les matchs. Et je crois me souvenir, à l'époque, que certaines jours ont été déclarés fériés pour permettre aux gens de rentrer chez eux et de suivre les matchs dans de bonnes conditions.
Voilà les souvenirs des Dakarois de notre ancien correspondant, avec notre ancien correspondant Olivier Roger. Alors des moments qu'on n'a pas oubliés, puisque le Sénégal est dans la poule de la France, alors championne du monde, et c'est à cause du Sénégal finalement que la France va sortir de cette Coupe du Monde avec si peu de panache. En tout cas, puisque vous êtes ici les acteurs de ce moment, d'abord, racontez-nous ce retour de l'aéroport, Habib, ce bain de foule. Vous vous y attendiez peut-être, pas du tout, pas trop?
Si, on s'y attendait. Après, aussi important, je pense pas. C'est-à-dire que je crois qu'on a mis 4 heures, un petit peu plus de 4 heures à relier l'aéroport au palais présidentiel. Lorsque vous connaissez, normalement, ça doit prendre, on va dire, une quinzaine, vingtaine de minutes peut-être.
C'était l'ancien aéroport.
Ouais. Donc non, mais c'était exceptionnel. C'était exceptionnel de vivre ça. Sachant qu'on avait fait un quart de finale de Coupe du Monde, je pense que c'était une ferveur populaire qui était née aussi de la Coupe d'Afrique, faut pas l'oublier. Avant, on avait réussi un résultat aussi incroyable en étant en finale de Coupe d'Afrique, mais on a vécu un moment inoubliable. Moi, c'est le meilleur moment de ma vie de footballeur, j'hésite pas à le dire.
Khalilou, c'est celui-là, vous, le meilleur moment, ou quel serait votre meilleur souvenir de cette épopée de Coupe du Monde 2002?
Disons que la génération 2002, il me serait difficile de choisir juste un moment, tellement qu'on a eu, je pense, à partager des moments qui peut-être ne sont pas pour le simple Sénégalais des moments exceptionnels, mais pour nous, voilà, nous retrouver même autour d'une tasse de thé, ça a été déjà aussi des moments exceptionnels. Donc c'est vrai qu'à partir de là, on savourait à chaque fois qu'on se regroupait, qu'on se revoyait. Mais c'est vrai que c'était, je pense, un des moments les plus impressionnants. C'était effectivement le retour après la qualification et le retour après la Coupe du Monde.
Alassane Dour, quel est votre souvenir, vous, de cette année 2002?
Il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Il y a énormément de moments où vraiment on était en phase avec les joueurs, les dirigeants, staff technique, où on se retrouvait dans une chambre en faisant du thé, des entraînements de haut niveau, des matchs de haut niveau. C'était des super moments, mais le retour a été encore plus exceptionnel parce que c'était avec notre public, c'était avec toute la population, ceux qui venaient au stade, ceux qui venaient pas, et ils nous attendaient. Et puis, comme Habib l'a si bien dit, on a fait 5 heures de temps, je pense, pour aller au palais présidentiel. C'était un super moment, l'un des meilleurs moments de notre carrière footballistique.
Surtout, Annie, on n'avait pas pu, nous, prendre la température de ce qui se passait ici au Sénégal. C'est-à-dire qu'on était en Corée-Japon, donc on avait des échos, soit de nos familles, soit des gens avec qui on partageait au téléphone de ce qui se passait à Dakar. Mais on a pris vraiment la dimension de l'exploit qu'on avait réalisé à ce moment-là, lorsqu'on est rentré au pays. C'est-à-dire qu'on savait que tout le Sénégal était derrière cette équipe. Mais lorsque vous rentrez et qu'on vous a dit... Vous ne pouvez pas vous rendre compte, le Sénégal aujourd'hui ne vit que pour vous. Le baromètre de popularité, c'est par rapport à l'équipe nationale. Il y a des gens qui n'ont pas été travaillés, il y a des gens qui ont même sacrifié leur vie de tous les jours pour justement s'investir dans la vie de l'équipe nationale. Quand je dis ça, c'est sur le plan financier. Il y a des gens qui ont investi, qui ont dépensé de l'argent pour acheter des maillots, pour acheter des drapeaux, au détriment de la vie de famille. Donc ils se sont donnés... à 200% pour nous. Et nous, d'où on était, on le voyait pas ça. Donc on l'a vécu pas... vraiment en retour dans le bus, on pouvait pas le vivre. Mais quand on l'a vécu, on s'est dit, waouh, c'est juste énorme quoi.
Khalilou ?
Ouais, on recevait quelques nouvelles. Moi, en particulier, je recevais quelques nouvelles de ma mère qui m'expliquait un petit peu la détresse qu'elle avait pour les poulets du pays. Je pense qu'ils ont effectivement à ce moment-là, je pense.
Tout le monde en mangeait.
Bah, je sais pas si tout le monde en mangeait. En tout cas, il y en a pas beaucoup qui ont survécu à cette époque-là. Donc, c'est vrai qu'il y a eu certaines personnes ont fait l'amalgame entre le coq français et le coq du pays. Et donc voilà, c'est vrai que ça a été des moments très très difficiles pour tout ce qui était volatile. Mais voilà, nous on était on a vraiment savouré ce moment-là. C'est vrai que ça a été le retour au pays a été vraiment un impact au niveau émotionnel qui a été vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, c'est vrai qu'Habib et Alassane disaient tout à l'heure que c'était ça fait partie franchement des plus beaux moments qu'on ait pu avoir dans le pays, mais surtout au niveau de nos carrières sportives respectives. Je pense que ça a été des moments qui ont été vraiment exceptionnels dans toute son ampleur.
Abdoulaye Sarr, vous qui voyez tout ça du banc, je dirais, est-ce que vous avez un souvenir peut-être d'un moment sur la pelouse, un des matchs de cette équipe de 2002 pendant la Coupe du Monde? Il y a eu 5 matchs, je le rappelle.
Oui, effectivement, hein. À chaud, très loin du pays, dans le rôle qu'on jouait, on avait d'autres sensations. D'abord, les souvenirs, les moments forts, avant de revenir sur la pelouse, c'est surtout quand on est arrivé au Sénégal, avec tout ce qu'on a vu, c'est là où on a compris qu'on avait fait du plaisir, qu'on avait donné beaucoup de plaisir à tout un peuple. Mais à chaud, comme j'ai dit, dans le feu de l'action, on ne peut pas réaliser ce qu'on faisait, ce qu'on apportait à tous les férus du football. On s'est rendu compte qu'on avait fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grand. Mais sur les pelouses, c'est beaucoup de sensations. En tant qu'entraîneur, la joie qu'on retrouvait, c'est de voir les jeunes réaliser des schémas de jeu, des prouesses qu'on avait répétées à l'entraînement. Je me souviens, le but qu'on marque contre le Danemark. Je pense que le groupe technique même de la FIFA l'a inscrit en lettres d'or pour dire qu'il faut enseigner ce geste, cette action, dans les centres de formation et dans les écoles de football. C'était vraiment un modèle de contre.
Ils vous ont impressionné?
Ah, ils m'ont beaucoup impressionné, mais surtout, vu la relation que j'avais avec eux, parce que l'entraîneur m'avait permis beaucoup de liberté avec ces jeunes, je pense qu'il y a eu des sensations très fortes. Et ces sensations venaient surtout de leur activité sur le terrain. Je ne parle pas de la dimension humaine de ces jeunes, ce qui fait aujourd'hui que c'est un grand plaisir pour moi de les retrouver. C'est encore des émotions quand je les vois. Leur prouesse a convaincu plus d'un. Et aujourd'hui, si j'ai pris le but contre le Danemark, moi, c'est le but qui m'a le plus impressionné dans sa conception et dans sa réalisation. Il y a eu d'autres buts. Le but de la 30e minute contre la France, c'est un but qui a réveillé chez nous une confiance qu'on ne soupçonnait pas, de loin. Mais moi, les connaissant, je disais que j'ai un groupe de guerriers, des jeunes qui n'ont peur de rien et qui vont aller pour se faire plaisir. Donc, on est passé vite sur ce but. Il y a eu d'autres réalisations.
Un document sonore très connu maintenant grâce aux médias, c'est celui de la causerie de Bruno Metsu à la mi-temps. C'est-à-dire le Sénégal mène 1-0. Le but a été marqué par Bouba Diop à la 30e minute. Et là, à la mi-temps, eh bien, Bruno Metsu parle à ses hommes. Écoutons.
Ce qu'on est en train de faire, c'est grand. Ce qu'on peut dire, c'est grand, voire très grand. Maintenant, il y a des détails à corriger. C'est que du détail. C'est que du détail. Physiquement, je l'ai dit, on est mieux qu'eux. On a les occasions. À chaque fois qu'on les compte, on les fait mal. Je l'ai dit, les faire mal. Et si encore, on est un peu plus patient dans les courses, et là, je monte un petit peu plus patient. Tu vas aller seul au but. Seul. Tu en auras une, tu auras un tête à tête avec Barthez. Si tu continues à jouer comme ça, tu l'auras la balle. Continue comme ça, un peu plus patient dans ta course, en profondeur. Il n'y a que ça, ça c'est une à corriger. Ensuite, sur les côtés, quand on percute, on leur fait mal. D'ailleurs, le but, percussion, boum, on les a tués. On les a tués. Et encore, et encore, et encore. Il y en a encore d'autres ballons.
Khalilou, vous les entendez encore, ces mots?
Ouais, ces mots, c'est vrai que ça résonne, résonne toujours dans nos mémoires. Parce que voilà, je pense que c'était... Bruno, paix à son âme, avait réussi justement avec le coach Ablaï Sarr et puis bien sûr feu tonton Jules Bocandé, avait réussi justement à trouver toujours les justes mots pour chacun d'entre nous, en sachant que bien sûr que nous avons tous des tempéraments très différents, très particuliers, très trempés.
Ouais. Souris.
Donc voilà, mais il y avait quelque chose qu'on avait en commun, c'est cet amour du pays, c'est cet amour de notre maillot. Et à partir de là, je pense que Bruno Metsu a réussi à justement lui aussi s'imprégner justement de cette fibre patriotique, et qui fait qu'à chaque mot qui nous sortait, à chaque mot qui nous disait, on arrivait justement à comprendre tout le sens du mot. Alors quand ça donnait sur les données tactiques, c'était encore beaucoup plus facile pour nous, parce qu'on savait pertinemment là où il voulait nous amener. Et donc on a toujours été justement en osmose, que ce soit avec que ce soit avec nos dirigeants, que ce soit avec nos entraîneurs. Mais je pense que la force de cette équipe, c'était tout son ensemble. C'est-à-dire que même les jardiniers, même les intendants faisaient partie intégrale de cette épopée-là. Et donc, je pense que voilà, je crois que Bruno avait réussi justement à trouver pour chacun d'entre nous les justes mots. Donc, je tairai un petit peu sur certains joueurs, comment il arrivait à les motiver en leur faisant croire certaines stupidités, mais voilà, ça avait bien marché à l'époque et ça a porté ses fruits, puisque le jour de ce fameux match, je pense que un des meilleurs joueurs sur le terrain avait été Moussa Ndiaye.
Ce qui est fort dans cette causerie quand on l'écoute, c'est qu'on se dit, on joue les champions du monde, champions d'Europe en titre, et vous avez Bruno Metsu qui ne parle pas de l'équipe de France, il ne parle que des forces de l'équipe du Sénégal. Et ça, je trouve ça fort, parce que lorsque vous jouez une équipe comme ça, vous pouvez avoir un entraîneur qui va vous dire « Faites attention, il y a Trezeguet, il y a Thierry Henry ». Là, lorsqu'on l'entend, il ne parle que des forces de notre équipe. Donc ça nous donne énormément de confiance. Et je l'ai dit souvent dans des interviews, on était peut-être les seuls, les 23 plus le staff, à savoir, pas à croire, à savoir qu'on battrait l'équipe de France. C'est un peu paradoxal de dire ça aujourd'hui. On joue les champions du monde, les champions d'Europe, mais Bruno l'avait dit avant le match, on va les battre. On va les battre. Dans la causerie, il avait insisté sur les faiblesses de cette équipe, pas sur les forces. Lorsqu'il parle de l'équipe de France, il ne nous montre pas la force de Thierry Henry, il ne nous montre pas la force de Trezeguet, il nous montre les faiblesses de cette équipe, grâce aux forces que nous avons. C'est-à-dire de dire, regardez, ils ont ces faiblesses-là, et avec nos forces, on va leur faire mal. Et c'est ce qu'ils disent dans cette... Et ça, je trouve ça très très fort comme discours.
Yoro Ngara, vous vouliez ajouter un mot, parce que vous avez suivi tout ça du Sénégal, bien sûr, en tant que journaliste.
Et c'est l'occasion de leur dire merci pour ces émotions qu'ils nous ont donné au peuple sénégalais. Moi, je me souviens, ce match-là, je l'ai suivi à Dakar, et j'étais près du palais. À la fin du match, Abdoulaye Wade a appelé l'équipe nationale du Sénégal. Il leur a dit, écoutez, on a battu les champions du monde, maintenant nous sommes champions du monde. Mais vous allez continuer le tournoi, vous allez jouer pour l'Afrique. Et ce jour-là, le président Wade, il devait voyager. Et d'habitude, quand il voyage, il prend la corniche, pour ceux qui connaissent très bien Dakar. Et ce jour-là, il a dit à l'aide de camp, en Wolof, Filaïdiar, non, je passe ici. Il est sorti, il a pris l'avenue, il est rentré dans Sandaga, il a pris 4 heures, voire 5 heures de temps avant d'aller à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Il était dans la foule, il saluait tout le monde, il agitait un coq. Et c'était impressionnant de voir ça. Et ce jour-là, je vous dis, il n'y avait pas d'artistes, il n'y avait pas... Tous les Sénégalais se sont mélangés et se sont unis. Il y avait Kion Sek, Ismaël Lo, ils étaient tous devant la RTS et c'était fabuleux. Je pense qu'on n'a jamais vécu ça dans l'histoire du football sénégalais. C'était la première fois de vivre un tel événement.
Bruno Metsu, d'ailleurs, à l'issue de ce match, alors à nos envoyés spéciaux, puisque RFI, évidemment, suivait la compétition, c'était avec Christophe Jousset, et il parle de ce moment extrêmement fort. Il parle d'un tremblement de terre.
Au cadeau qu'ils pouvaient me faire, je crois que ce qu'ils ont fait, c'était remarquable. Et j'avais marqué dans ma causerie, 31 mai 2002, date historique. J'allais dire peut-être un tremblement de terre à Séoul, parce que le Sénégal peut battre la France, et ça s'est révélé exact.
Le tremblement de terre s'est ressenti jusqu'à Dakar.
Ouais, c'est vrai. Même le président de la République, je l'ai eu d'ailleurs hier soir au téléphone, il était fou de joie, il était dans la ville avec les supporters. Et d'ailleurs, moi, En deux fois, j'ai réalisé pas que c'était le président de la République que j'avais au téléphone, tellement il était heureux, il était content, il faisait écoute Bruno, les bruits, les klaxons, les bruits et tout. Je dis mais c'est vraiment le président que j'ai au téléphone ou pas?
Abdoulaye Sarr, c'était ça aussi le secret de ce groupe, c'était d'avoir très bien préparé la compétition. Habib le dit, de les convaincre qu'il y aurait des victoires et qu'ils iraient loin, parce qu'ils croyaient en ce groupe. On le disait dans l'émission d'hier, tout avait commencé bien avant le match France-Sénégal.
Oui, entendre la voix de Bruno Messi qui tonne encore, c'est faire voir à tout le monde sa méthode de management. Et je crois que sur ça, il a beaucoup aidé le groupe, mais aussi il a pu développer ses idées du football. Pour moi, Bruno, c'était en dehors même de ses qualités humaines. C'était un entraîneur qui avait le goût du risque, qui n'avait peur de rien. Et ce comportement, il l'avait transmis à son groupe. Si bien qu'il y avait en tout cas une relation très fusionnelle entre le groupe et l'ensemble du staff. Et je pense que ça a été l'une des forces de cette génération 2002. Et un entraîneur qui croit au jeu et qui sait que c'est par le jeu et pour le jeu qu'il pourra arriver à des résultats, cet entraîneur osé, et là où on parle, je me souviens lors du match contre la France, dans le vestiaire, dans la salle d'échauffement, sa voix qui tonne, quand j'entends les joueurs échanger des mots, je me disais qu'il va se passer quelque chose. Jusqu'à l'alignement des équipes, quand j'ai vu nos joueurs prendre les jeunes coréens, je me disais, mais est-ce que ces jeunes réalisent qu'ils jouent un match d'ouverture de Coupe du Monde? Pendant ce temps, le groupe France était crispé, c'est ce que j'ai senti. Et ça s'est traduit sur le terrain.
Ils sont crispés trop tard peut-être, hein, parce que voilà. Abby, vous parliez des moqueries ou des provocations d'avant-match. Alassane Ndour, vous avez aussi une carrière internationale, hein, comme d'autres joueurs ici. Vous en avez connu d'autres des coachs, là où vous avez joué, notamment à Saint-Etienne en France et tout. Est-ce que Bruno Metsu, c'était un coach à part, et son équipe, c'était des gens à part qui vous ont justement pris comme il fallait? Parce qu'après, il y a eu d'autres compétitions et finalement... ça n'a pas été la même chose.
Oui, en fait, Bruno avait une manière de manager son équipe qui était très différente des autres. Voilà, donc lui, c'était pas le fin tacticien. Donc lui, c'est plus, il s'est galvanisé son équipe, son groupe. Il s'est remonté ses joueurs. Donc c'est très important. Kali disait ça tout à l'heure. Une anecdote qu'on se raconte tout le temps avant le match contre la France. Il arrive à monter Moussa Ndiaye suite à des paroles, comme Khalil a si bien dit, des paroles vraiment...
Fortes,
mais assez bêtes. Il faut dire le mot.
Qu'est-ce qu'il lui a dit alors?
Je ne saurais pas transcrire en français, mais je sais qu'en Wolof, il lui a dit des choses, mais tellement extraordinaires.
Dites-le en Wolof. Que...
Non. On va laisser qu'elle raconte ça. Mais donc, il arrive à le monter contre Lizarazu. Mais on voyait que Moussa Ndiaye sur le côté. Et tout le monde savait que Lizarazu, c'était un des joueurs clés de l'équipe de France sur le côté gauche. Donc ça, c'était déjà un problème réglé. Donc ça, Bruno arrivait à transcender ses joueurs, arrivait à surmonter ses joueurs. Vraiment, nous, à la veille du match contre la France, je pense que c'était notre meilleur entraînement.
Aliou Cissé était dans l'équipe. Aliou Cissé est actuellement le sélectionneur, après avoir été le capitaine des Lions de la Teranga en 2002. Il est le sélectionneur qui emmènera ces nouveaux Lions en Russie. Et à l'époque, eh bien, il se disait, on a marqué l'histoire, et on a marqué l'histoire pas seulement du Sénégal.
On est en deuxième tour et ça c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai que ça a été difficile, ça a été laborieux. Mais bon, je crois que l'essentiel aujourd'hui c'est d'être rentré dans l'histoire du football africain. Je dis même pas l'histoire du football sénégalais, mais l'histoire du football africain. Et ça c'est magnifique.
L'équipe de France et l'équipe d'Uruguay restent au bord de la route. C'est pas n'importe qui. Vous continuez.
Ouais, nous, on continue. C'est vrai qu'en début de cette compétition-là, personne ne misait ne serait-ce qu'un franc sur nous. Mais bon, on a montré que le football aujourd'hui, c'est pas seulement des qualités techniques, des dons. Je pense qu'il y a aussi des qualités physiques et surtout les qualités mentales. Et nous, on a un groupe au niveau mental vraiment, on est, je pense, au supérieur à beaucoup d'équipes.
Voilà, Liu Cissé, il connaît la clé, donc peut-être pour cette année en 2018, à vivre.
Oui, il faut l'espérer, il faut de la solidarité. Mais ce que disait Liu tout à l'heure, j'ai une petite anecdote qui ne va pas durer longtemps. La veille du match contre l'équipe de France, il y a eu une petite altercation entre Lamine Diatta et Eladji Diouf qui ne défendaient pas. Et en fait, Bruno s'est fâché avec Lamine Diatta et il lui a dit « Tu donnes ton chasuble à Habib ». Et Lamine Diatta est l'un de mes meilleurs amis dans la tanière. Et à partir de là... j'ai dit à Bruno, alors que j'aurais pu être titulaire le lendemain face à la France, c'était quand même une bonne opportunité pour moi.
Ah ouais.
Je me rappelle avoir dit à Bruno, non, c'est bon, ça va s'arranger. En fait, tous les joueurs, et c'est surtout ça qui a été important ce jour-là, c'est que tous les joueurs sont allés vers Bruno, enfin en tout cas, ne sont pas allés vers Bruno, mais lui ont dit, non, c'est bon, les gars, on se calme, il y a un peu de pression, c'est normal, demain on joue l'équipe de France. Tout est rentré dans l'ordre, Lamine Diatta a été très très bon sur ce match-là. Mais ça montre la solidarité en fait qu'il y avait dans cette équipe. C'était pas seulement 11 joueurs, c'était un groupe de 23 avec le staff. Khalil a dit, les intendants, aujourd'hui, on ne parle pas de ces gens-là qui sont dans l'ombre, qui travaillent pour nous, qui étaient dédiés, qui se couchaient à 3 à 4 heures du matin pour que tout soit en place pour nous le lendemain matin. Et c'est vrai qu'on formait une vraie famille et c'est ce qui a fait aussi la réussite de cette équipe.
En tout cas, se hisser en quart de finale, c'était un vrai événement, non seulement parce que c'était la première participation du Sénégal, mais parce que peu d'équipes africaines l'ont fait dans l'histoire. On a le Nigeria... Le Cameroun et le Ghana.
Ouais. Le Nigeria ne l'a jamais fait.
Le Nigeria ne l'a pas fait. Donc
c'est le Cameroun en 90, c'est la génération de Roger Milla, Mbédé, Onana Tata ou Makanaki. Et après, c'est le Sénégal en 2002, ils sont là. Et après, le Ghana l'a fait. Et le Ghana pouvait même aller en demi-finale. N'eût été cette main de Suarez qui a...
Nous aussi, on aurait pu aller en demi-finale.
Ouais. Henri Camara...
S'ils n'avaient pas marqué ce fameux Golden
Goal... Ouais, mais bon, Henri Camara... a sorti votre balle, hein, Kali.
Eh ouais, non, c'est vrai, pardon.
C'est la frappe de Kali,
c'était en plus.
Non, mais c'est un paradoxe, parce que c'est le match... Je pense que le quart de finale, on ne doit pas le perdre. On mérite de le gagner. Alors que le huitième, on s'en sort très très bien. Il faut se rappeler de cette frappe sur le poteau, et ensuite on gagne 2-1, donc il y a des matchs qui sont parfois en football assez incroyables. Ouais. Moi, j'ai vu le match de la Suède, je l'ai joué sur le terrain lorsqu'on s'est qualifié, et j'étais sur le banc pour le match de la Turquie. Je pensais vraiment, face à la Turquie, lorsque je nous regardais évoluer, je me suis dit, c'est bon, pour nous la demi-finale, on va y aller. Ouais. Et je pense qu'il nous a manqué peut-être ce petit brin de fraîcheur et d'expérience à ce niveau-là aussi, pour battre la Turquie.
Cette année-là, Olivier Roger suivait le Sénégal ici, au Sénégal, donc pour voir ce que faisait la population. Moi, j'étais au Brésil, où je suivais le Brésil à distance. Et les Brésiliens, en fait, en tout cas, le peuple brésilien rêvait d'un Brésil-Sénégal.
Mais tous les Français étaient pour... À partir du moment où les Français sont rentrés aussi à la maison, tous les Français... était fan du Sénégal. Tout le monde a supporté le Sénégal.
Oui, mais aussi, c'était son style de jeu. C'était peut-être aussi la sympathie.
C'était le footballeur. C'est surtout ça. Bah oui, moi, je l'appelle footballeur parce que notre danse, c'est le ballard. C'est-à-dire, c'est fait de vibration, c'est fait d'animation et c'est fait de plaisir. Le football qu'on donnait aux Sénégalais en 2002, c'est d'abord de se donner du plaisir. On savait qu'on ne pouvait pas la gagner, la Coupe du Monde. Ce n'était pas possible. Mais se donner du plaisir et ne pas se donner de limites. Mm-hmm. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été... Mais regardez Khalif Adiga jouer en 2002 ou Eladji Diouf, etc. Ils n'avaient rien à envier au Brésil.
Et Alassane Doré Abibé.
Je parle des techniciens qu'on avait. Franchement... Il y a ce petit sombrero qu'il avait reçu, je ne sais pas face à qui, c'était magnifique.
Merci. Non, la première mi-temps de l'Uruguay est exceptionnelle en termes de football. La première mi-temps de l'Uruguay est l'une des premières mi-temps les plus incroyables que j'ai eu à vivre en tant que coéquipier.
À la mi-temps, je me disais,
très très haut niveau.
Est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de faire?
Ouais.
3-0.
Et là, j'ai tout gâché avec son jonglage. Il les a réveillés.
Il faut quand même clarifier beaucoup de. Il y a eu beaucoup de légendes qui ont été colportées pendant cette Coupe du Monde aussi. Et il serait bien de temps en temps un petit peu de tordre le cou justement à toutes ces.
Le coq.
Je pense qu'on lui avait déjà tordu le cou le 31. Mais voilà quoi. Je pense que.
Par exemple,
Le fait que certaines personnes aient eu à dire que nous sommes sortis pendant la Coupe du Monde, que la veille du match contre la Turquie, et paix à l'âme de ma mère, et ça je peux le jurer sur la tombe de ma mère, qu'il n'y a eu aucune sortie pendant la Coupe du Monde, qu'il n'y a eu aucune bamboula qui a été faite d'après certaines personnes la veille du match contre la Turquie. Donc il serait bon que justement certaines légendes, il est plus que temps, s'éteignent de nos jours. C'est vrai que nous sommes complètement différents de ce qui se fait en Occident, c'est-à-dire que même si nous avons tous évolué en Europe, nous avons une autre approche de du football. Quand on voit justement les équipes africaines rentrer dans les vestiaires ou se monter sur le terrain en dansant, ce n'est nullement du folklore. C'est une manière pour nous de nous préparer mentalement, de nous préparer d'une manière culturelle. Et je pense qu'il serait bon que justement certaines personnes acceptent cette différence-là et ne voient pas cette différence-là comme de la facilité, négatif, comme une certaine légèreté de concentration. Donc voilà, je tenais absolument à mettre quand même le point sur ce fameux « i ». Nous sommes pas des incultes, nous sommes pas des gens désinvoltes. Au contraire, nous avons pris cette compétition avec beaucoup de passion et beaucoup de cœur parce que nous représentions non seulement le Sénégal, mais aussi le continent africain. Et donc, j'aimerais beaucoup que pour aujourd'hui, que ces fameuses légendes cessent aujourd'hui, parce que c'est monté jusqu'à un niveau où une des personnalités, ou la personnalité la plus importante de ce pays, a eu à reporter ça. Et ça nous a fait beaucoup de mal, parce que c'est complètement erroné. Donc voilà, nous avons notre manière de nous préparer. Notre manière à nous de nous préparer, c'est d'être nous dans nous, de faire qu'un, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, les intendants, les joueurs, le staff, le peuple. Donc voilà, nous n'avons pas mis de barrière avec nos supporters quand nous étions en Coupe du Monde. Effectivement, ils étaient avec nous, parce que le peu de supporters que nous avions, nous n'allons pas quand même les laisser à des kilomètres de là. À l'inverse peut-être de d'autres pays qui ont beaucoup plus de moyens et qui ont laissé leurs supporters autre part. Nous, nos supporters, on voulait qu'ils soient avec nous parce que nous avions besoin d'eux justement pour aller au bout de cette aventure-là.
Ben merci Khalilou. Et Radio Foot étant diffusé en monde,
j'espère que mondial, tout le monde
l'entendra, hein, sur l'antenne mondiale, la radio du monde. J'espère qu'on vous entendra et que tout le monde vous aura entendu. En tout cas, trois équipes donc justement sont arrivées aujourd'hui seulement en quart de finale. Est-ce que ça va bientôt changer? Est-ce qu'on aura Abdoulaye Sarr une équipe en demi-finale ou en finale, une équipe africaine bien sûr cette année?
Je le pense sincèrement, vu l'évolution du football africain. Et je rebondis sur ce que Kali a dit. On n'arrive pas en stade en n'étant pas sérieux. Et ce groupe qu'on avait, c'était un groupe très professionnel. Et je pense que sur le match contre la Turquie, ce serait même un crime de lèse-majesté de vouloir tenir certains propos. Ils étaient très professionnels. Et moi, je peux témoigner et confirmer qu'on avait des jeunes sur qui on pouvait compter.
Et qui auraient pu aller plus loin,
et
peut-être.
Et qui pouvaient aller plus loin. C'est les aléas d'un match de foot. Mmh. On pouvait le gagner avant la fin du temps réglementaire. On est allé en prolongation. Il y avait le but en or. Tout ça, je pense qu'il faut le mettre dans le compte des aléas d'un match. Mmh. Et passer à autre chose. Mais ce qui est sûr et certain, pour l'Afrique, moi je suis convaincu, on n'est pas loin. Une équipe africaine ira en demi-finale et l'Afrique prendra la Coupe du Monde. Donc ça, je crois qu'on travaille. Le football est devenu quelque chose d'universel et de plus en plus, regardez les joueurs africains comme ils sont cotés. Et je pense que dans les pays africains, les gens ont pris la température. C'est une autre dimension. Les gens essaient de s'organiser, de se structurer. Et je crois que c'est pas loin.
Il faut pas de plafond de verre, en fait, Annie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un plafond de verre. On a l'impression que c'est le quart de finale pour une sélection africaine. Nous, on a pris...
Mais c'est pas une malédiction, c'est un aléa du football, c'est ça ?
Je pense qu'aujourd'hui, on a pris conscience de ce qu'on faisait peut-être après le huitième de finale. On s'est rendu compte, on s'est dit, voilà, là, c'est le quart de finale. Et peut-être qu'il y a eu ce supplément de pression qui a fait que l'équipe ne s'est peut-être pas comportée comme elle l'avait fait sur les quatre matchs précédents. Et aujourd'hui, il faut qu'absolument que les sélections africaines soient désinhibées. C'est-à-dire qu'elles arrivent dans la compétition avec la même ambition que l'équipe d'Allemagne, que l'équipe du Brésil, que l'équipe d'Argentine, de se dire on n'est pas là pour faire un bon résultat, on n'est pas là pour arriver en huitième de finale ou en quart de finale et ça sera déjà un exploit. Non, on est là pour gagner une compétition. Et lorsqu'on aura ces mentalités-là, je pense que ça changera beaucoup dans l'approche de cette compétition.
Alors, que reste-t-il de 2002 ? David Finzel s'est promené dans Dakar et a posé quelques questions aux Dakarois.
En tant que Sénégalais, vraiment, on s'en souvient jusqu'à présent même. On a senti que vraiment le Sénégal, il a fait quelque chose qu'on n'avait pas attendu en Afrique. Surtout un petit pays comme le Sénégal, qualifié en Coupe du Monde, aller jouer jusqu'en quart de finale. Vraiment, ça nous fait plaisir jusqu'aujourd'hui dans le cœur, ça reste dans le cœur.
C'était énorme comme parcours, parce que c'était une fierté vraiment de voir le Sénégal, une équipe qui n'a jamais été en Coupe du Monde, vraiment battre l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde précédente.
Oui, je me souviens. J'ai vu que ça, j'étais très content, parce que j'ai dit que le lion a bouffé le cop. J'étais tellement content.
Je me souviens juste d'un petit truc, que tout le monde était content. Et c'était juste une victoire extraordinaire.
Et tout le Sénégal était tellement content, même si ça suffisait là-bas, de battre la France. On s'est levé 6h du matin, même les mamans, les petits-enfants, on prend petit déjeuner ensemble, en train de regarder la télé. Tu vois, le Sénégal fait une belle prestation avec une grande équipe de France. Et on les a battus. Mais tout Dakar était abandonné. Et on tenait les coqs partout. Et on a mangé beaucoup de poulet ce jour-là. Beaucoup de poulet.
Yoro, c'était le plat national ce jour-là.
C'était le plat national, c'était la fête. Et en plus, avec les décalages horaires, les matchs étaient à 5h30, 6h du matin. Il fallait se réveiller tôt. Ils ont eu le temps d'aller au marché, de tuer le coq et de faire un bon plat à midi. Parce que quand même, ce jour-là, franchement, on a tous mangé du poulet. Je n'étais pas encore journaliste, j'étais étudiant. C'était encore mieux, j'étais supporter.
Alors, que reste-t-il de 2002 ? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Qu'en avez-vous fait, vous, déjà, les joueurs de 2002 ? Alassane Dour, je me tourne vers vous parce que vous avez, vous vous êtes lancé dans quelque chose. Vous n'êtes pas formateur, vous n'êtes pas entraîneur, vous n'êtes pas consultant, comme beaucoup d'anciens joueurs le deviennent. Vous faites quelque chose de différent. Vous vous êtes lancé dans les marmites du cœur. Vous êtes le Michel Colucci, Coluche du Sénégal.
Oui, en fait, oui, je me suis lancé dans le social, comme on dit, donc en créant cette association qui s'appelle les Marmites du Cœur, avec Moustapha Dieng, un ami. Et on s'est dit, en rentrant au Sénégal, il faut quand même créer quelque chose pour redonner, comme on dit en anglais, giving back. À cette population sénégalaise qui nous a tant supporté, qui nous a aidé, qui nous a qui a été à nos côtés durant toute notre carrière. Donc à l'image du Resto du Cœur, je me suis dit tiens, c'est quand même quelque chose qui pourrait être utile, c'est-à-dire de donner à manger aux pauvres, aux nécessiteux, aux gens qui en ont besoin, de manière très ponctuelle, parce que ce qu'on ne peut pas faire durant toute l'année. Mais on a choisi une période propice, une période qui vraiment pourrait être déterminante, parce que le Ramadan, comme tout le monde le sait, le Sénégal, c'est un pays laïque, oui, mais un pays aussi qui est à 90% de musulmans. Donc le mois de Ramadan, qui reste un mois problématique pour cette population sénégalaise, une certaine couche de population sénégalaise qui ont du mal souvent à couper les gens de manière conviviale et puis avec un repas bien, bien décent à la fin. Donc,
vous faites ça depuis 2011. Combien de personnes participent au restaurant des Marmites du Cœur ? Vous avez une cinquantaine de bénévoles ?
Oui, on a une cinquantaine de bénévoles qui suivent cette caravane. Donc c'est une caravane qui commence à partir de Dakar et puis qui fait le tour du Sénégal. On est pratiquement sur les 16 régions du Sénégal.
Et vous servez combien de repas ?
Et la moyenne en jour, c'est 1200 personnes peuvent bénéficier du repas du soir. Donc avec 50 bénévoles qui sont avec moi, qui parcourent le Sénégal.
Et vous avez besoin d'aide toujours, bien sûr.
Toujours, on a besoin d'aide de M. Fadiga, de M. Abibey, de Blaissard, de tout le Sénégal, de la génération 2002, des autorités, tout le monde. En fait, c'est une certaine union, c'est un partage, c'est la solidarité au moins béni. On est aussi, on fait beaucoup de social aussi avec les catholiques, avec la marche de Popongine, où aussi on arrive à donner des repas, à aider les gens avec pour couper leurs gens aussi.
Khalilou Fadiga, qu'est-ce que vous faites, vous, de cette aura de 2002 aujourd'hui?
Moi, j'ai eu la chance d'être nommé il y a 6 ans de cela en tant qu'ambassadeur itinérant du président de la République. Puis par la suite, on se croise de temps en temps avec Habib parce que je travaille pour différentes chaînes. Donc je travaille pour une chaîne qui s'appelle Beansport au Qatar. Donc moi, je suis plutôt du côté plutôt arabique, plus que francophone. Habib est Canal Plus et que moi, je suis sur Beansport.
Vous êtes concurrent, quoi?
Bon, on n'est pas concurrent, je dirais qu'on est collègues. Hein, parce que voilà, on n'est pas sur le même... Habib est un frère, donc je ne suis pas concurrent, c'est un frère. Donc je travaille pour différentes télés, dont une chaîne aussi, la première chaîne belge, RTBF. Et puis moi, j'ai ma propre société de trading ici au Sénégal, où j'importe les matières premières. Et donc voilà, et puis j'ai eu la chance aussi de bouger.
Et votre nom, 2002, sert à vos affaires aussi, tout votre...
Oui, disons que dans certains secteurs, comme le football et tout ça, ça sert, mais au niveau du business, je peux vous dire que ça ne... Il faut remonter les manches, être au rendez-vous à l'heure, essayer un petit peu de rentrer dans ce combat où il y a beaucoup de loups, mais voilà, ça fait déjà 8 ans que j'y suis et ça se passe bien. Et puis, bien sûr, dans le social aussi, on aide beaucoup, depuis de nombreuses années déjà, l'Empire des enfants de Madame Bao. Puis j'ai eu la chance de pouvoir faire une école gratuite pour les enfants du côté de Guéreau, pas trop loin de Popengine. Une école gratuite pour les enfants, une école générale, hein, pas de football, parce que je veux pas que demain on commence à m'appeler à me dire ouais, une école, non, c'est pas une école de football, c'est une école générale. Donc qui veut étudier, vient à Popengine, il sera scolarisé gratuitement.
Vient dans l'école. Voilà. Abdoulaye Sarr, vous êtes resté dans le football, vous continuez finalement à former des générations de footballeurs sénégalais, c'est ça, vous êtes à Génération Foot.
C'est ma passion, le foot, c'est ma vie. Mais avant de parler de moi, je vais adresser la parole aux jeunes de 2002.
Mais précise encore une fois, juste j'ai oublié, avant qu'on m'engueule, je suis membre du comité de la Confédération africaine de football, je suis à la CAF.
D'accord,
donc
aussi.
Voilà, oui, aussi.
D'accord.
Bon, avec ce groupe, je suis resté un peu sur ma faim, hein, pour dire la vérité. Je suis en face d'Abib, Gali, et Alsane, des... jeunes avec qui vraiment on a passé d'agréables moments. Mais sur cette génération, je pense qu'il fallait formaliser certaines choses, définir un cadre et montrer plus cette solidarité qu'il y avait et être plus utile au pays. Mais je les vois un peu dispersés, chacun en solo essaie de continuer sa reconversion. Moi, j'aurais voulu que cette génération puisse, en tout cas, créer un cadre et essayer de développer d'autres actions sur le plan sportif, sur le plan humanitaire, parce que les jeunes Sénégalais en ont besoin. Vous êtes des références. Le seul conseil que je veux vous donner, c'est accepter les différences et essayer vraiment d'institutionnaliser quelque chose pour le Sénégal, parce que vous représentez quelque chose. Et nous, on serait vraiment enchantés de vous accompagner. Alsane est de son côté, même s'il se retrouve toujours, c'est la bonne ambiance, mais il faut faire quelque chose de structuré et essayer d'aider les jeunes Sénégalais.
Mais là, maintenant, c'est pour une très bonne idée, mais l'ancien premier ministre de cette époque-là, je pense que c'est le président actuel, donc ça serait bien de le solliciter justement et voir aussi avec le ministre des Sports. Je pense que ça doit plutôt venir d'eux. De se remémorer justement, de nous permettre à nous aussi de pouvoir un petit peu aller faire des matchs de gala à l'intérieur du pays. Je pense que ça serait, en venant d'en haut, je pense que ça serait beaucoup plus facile à conjuguer, oui, que nous-mêmes, parce qu'effectivement, nous avons chacun d'entre nous un emploi du temps relativement différent, mais l'envie est là.
Habib, vous êtes consultant, mais vous avez aussi envie de revenir dans le football, de revenir sur le terrain, on le sent dans vos commentaires, on le sait.
Oui, moi,
futur coach.
C'est une obsession pour moi. C'est une obsession. C'est une obsession pour moi d'entraîner. C'est vrai que je l'avais déjà un peu en tant que joueur, j'avais cette idée-là. Mais c'est vrai que depuis que je suis consultant et que je suis confronté à des matchs de très très haut niveau, avec Ali, on a la chance de rencontrer aussi des entraîneurs, des joueurs en activité. Et ça développe un sens que vous aviez quand vous étiez joueur. Et aujourd'hui, je suis attiré par le terrain, la prise de risque, parce que c'est aussi une prise de risque. Et bien sûr qu'il faut que j'ai la légitimité pour le faire. Il ne suffit pas d'être à la télé. Nous, on a une heure et demie pour débriefer un match, on a du temps. Un entraîneur, c'est des décisions qu'il doit prendre sur le moment. Donc, ce n'est pas du tout le même métier. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, tu parles bien de football, tu expliques bien le football. » Mais expliquer le football, ce n'est pas le mettre forcément en pratique. Chose, ouais. Donc, il faut être légitime pour ça. Même si c'est une obsession pour moi, je veux avoir mes diplômes. Il est clair qu'un jour, je sais que je serai sur un terrain. Où ça, je ne sais pas. Comme mais il a peut-être à l'US ou à Cap.
À Marseille.
Non, mais il a Habib. Je pense que quand on est consultant comme Habib et moi, je pense qu'il y a une certaine analyse qui se fait beaucoup plus rapidement du football. Donc, je pense que Habib a surtout vraiment cette analyse qui peut justement lui permettre, à mon avis, d'être pour moi un très très bon, voire un très grand entraîneur, parce que c'est quelqu'un qui assimile très rapidement, qui a cette faculté de pouvoir analyser très rapidement aussi, et puis de pouvoir justement déléguer, voire
transmettre
à d'autres personnes, comme il le fait à la télévision, mais là ça sera avec ses propres joueurs.
En fait, Yoro, Annie, on parle de beaucoup de cette génération 2002. Qu'est-ce qu'elle a pu avoir après 2002, mais on oublie ce qu'elle a donné après 2002. Elle est là. Je connais quelques-uns qui font du social et qui ne le disent pas, et qui sont là à aider cette population sénégalaise où on est encore un pays en voie de développement. Je donne juste l'exemple de l'école de Cali. Il y a Amdi Faye qui a une école à Touba où c'était interdit d'ouvrir une école. Il a réussi à le faire. Il y a des élèves qui s'y rendent, des enfants. Il y a plein d'anciens footballeurs de 2002 qui sont dans le social et qu'il faut remercier.
Merci.
Eh bien, messieurs.
Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Il faut les remercier.
Oui.
Mais moi, je voudrais qu'on crée un cadre. Ce serait encore beaucoup plus plausible et ça irait plus vite. Au lieu d'être dans l'individuel, quoi.
Eh bien, peut-être que Radio Foot servira à ça, ce Radio Foot dédié finalement à ce 31 mai 2002 et à la belle épopée des Lions de la Teranga. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé aujourd'hui à ce Radio Foot international. Merci beaucoup. Un grand merci à l'Institut français qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci au Baobab aussi qui nous accueillera encore demain. Merci à David Finzel, Médard Chablaoui qui était à la réalisation et à l'aide précieuse aussi de Guillaume Thibault. À demain, toujours au Sénégal. Équipe nationale. Équipe nationale gagnée.